Avril 2022. Je ne sais toujours pas si j'ai envie d'être là, ni si cela va servir à quelque chose. Je trompe mon malaise en feignant de lire les nombreuses affiches qui tapissent les murs de la salle. Il y en a pour tous les goûts. La prévention du diabète, les ravages du tabac, les fameux 5 fruits et légumes par jour. Quand le docteur Chèvrefeuille m'a parlé de ce groupe de parole, un mois après le retour d'Emeric à la maison, je lui ai presque ri au nez. Il était impensable que nous ayons, que j'aie besoin, de parler de quoi que ce soit. Après tout, le plus dur était derrière nous, non? Or, me voilà, plusieurs semaines plus tard, résolue à assister à une séance. Une décision au relent de dernière chance. Dire que je suis au bout du rouleau est un euphémisme. Hier soir, il m'a fallu plus d'une demi-heure pour réussir à sortir de ma voiture et à rentrer chez moi. Pas envie d'entendre ce morceau de piano qu'Emeric s'est mis en tête d'apprendre et dont il est incapable de retenir plus de 6 mesures. Il rejoue inlassablement les premières notes, convaincu que reprendre du début va l'aider à avancer. Pas envie d'être face à ce regard dans lequel je ne décèle aucune émotion, face à cet homme que je ne reconnais plus et que je ne cherche qu'à fuir. En m'endormant, je me suis demandé ce que serait ma vie si Emeric était mort dans cet accident. Et même si je ne l'admettrais jamais, au fond de moi, je sais que l'espace d'un instant j'y ai pensé. Alors qu'il dormait à côté de moi, oui, j'ai souhaité que mon mari soit mort. Je me suis détestée de ressentir de l'apaisement à cette idée. Comment peut-on avoir envie que l'homme qu'on aime n'ait pas survécu à un accident? J'ai eu du mal à me regarder dans la glace ce matin. C'est pourquoi j'ai appelé le secrétariat du service de neurologie qui m'a indiqué que le groupe de parole pour les aidants des personnes victimes d'un traumatisme crânien se réunissait justement aujourd'hui. Alors, je suis là, dans cette salle au sol stratifié de couleurs vertes et aux murs blancs tapissés d'affiches de santé publique, sur le point d'avouer devant un tas d'inconnus l'ignoble épouse que je suis. Nous sommes une quinzaine assis en cercle sur des chaises inconfortables, autour du fauteuil dans lequel a pris place une médecin en blouse blanche. Il y a des hommes, des femmes, de tous les âges. Seul point commun qui me saute aux yeux, les mains qui se tordent et les regards fatigués trahissant l'anxiété et la souffrance. Est-ce que moi aussi j'ai cette tête-là ? Bienvenue à tous, je m'appelle Eve Pochol, je suis neurologue et c'est moi qui vais animer la séance d'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'objectif est simple. Il s'agit de vous sentir libre d'exprimer les émotions qui vous encombrent ou vous blessent, sans jugement. Parce que vous tous, ici, êtes confrontés à la difficulté de vivre avec une personne ayant subi un traumatisme crânien. Vous n'êtes pas obligé de parler si vous n'en avez pas envie. Parfois, écouter le témoignage des autres, vous dire que vous n'êtes pas seul, est suffisant. Je me détends un peu. Je vais pouvoir simplement écouter les autres sans avoir à me confier. Le tour de parole commence. Ce que les autres personnes racontent m'est familier. Les changements de personnalité, l'irritabilité, les difficultés de concentration. Hier, j'ai passé une heure à chercher la télécommande, explique une dame d'une cinquantaine d'années, me demandant ce qu'il avait bien pu en faire. Je l'ai retrouvé dans le congélateur, et c'est comme ça pour tout. Il n'est pas ce qu'il fait, il est incapable d'imprimer le moindre souvenir, ça me rend folle. Je cherche les objets, et lui, il cherche ses mots. Je l'écoute parler, et j'ai envie de les lui arracher de la bouche quand ils ne sortent pas. Il met tellement de temps à former ses phrases. Oh, je vous jure qu'il y a de quoi devenir chèvre. Aurélie met 2 heures, parfois plus, à finir son assiette, enchaîne une femme dont le visage ne m'est pas étranger, sans que je parvienne pour autant à l'identifier. Elle est si lente. L'autre jour, j'ai senti monter en moi comme une sorte de pulsion. Je me suis vue attraper la fourchette et la gaver de son restant de spaghettis, quitte à l'étouffer, pour que le repas se termine enfin. Si je n'avais pas été distraite par l'arrivée d'un message sur mon téléphone, je l'aurais fait. Je suis certaine que je l'aurais fait. Je suis horrible. Aurélie a survécu à un grave accident, toute sa vie est chamboulée, et moi, je ne pense qu'à m'énerver et à avoir envie de lui faire du mal, juste parce qu'elle mange trop lentement. Merci pour ces témoignages, mesdames. Janine, si je puis me permettre, vous n'êtes pas horrible. La colère, l'agacement, le découragement sont des émotions on ne peut plus normales dans votre situation. Le traumatisme crânien vous met à l'épreuve, vous aussi. Et vous mettez par ailleurs le doigt sur quelque chose de très important, la lenteur. Un nouveau rythme souvent imposé après un traumatisme de ce genre. Celle-ci est due aux lésions cérébrales qui ont atteint des fonctions exécutives, comme la capacité à enchaîner les étapes d'une action pour accomplir une tâche. Descendre sa fourchette vers l'assiette, attraper de la nourriture, remonter la fourchette vers la bouche et enfin avaler les aliments. Tous ces mouvements que nous réalisons sans nous poser de questions sont devenus compliqués pour Aurélie. Il lui faut se concentrer et se préparer pour chacun. Et ça lui demande du temps, beaucoup de temps. De l'énergie aussi. Ce qui peut expliquer qu'elle soit fatiguée alors qu'elle n'a fait que prendre son repas. Janine. J'observe avec un peu plus d'attention la femme qui vient de parler et je reconnais ma concurrente d'il y a 20 ans. Son visage est creusé, les cheveux qu'elle portait longs sont désormais coupés au carré et striés de mèches grises. Mais c'est bien elle. Je ne sais pas comment je vais réussir à supporter ça. Je l'aime de tout mon cœur, c'est ma femme, mais sincèrement, je ne sais pas si je vais tenir longtemps. Murmure-t-elle si bas que je ne suis pas certaine que tout le monde ait entendu. Mon mari ne se souvient plus que son dessert préféré est la mousse au chocolat, ni qu'il l'aime bien sucré. Il ne dort plus de son côté du lit. Il est fan de musique classique, alors qu'il n'en écoutait jamais avant. Il s'est mis en tête d'apprendre à jouer du piano, mais est incapable de retenir plus de 4 notes. Pourtant, il ne renonce pas. Il joue ses 4 notes encore et encore et encore. Je ne pensais pas que je parlerais, ni que j'en ressentirais le besoin. Pourtant, c'est bien moi qui viens de prendre la parole. Au sein de ce groupe, je me sens en confiance. Oui, il arrive parfois qu'après un traumatisme crânien, les personnes restent bloquées sur des choses en particulier et s'acharnent, malgré des obstacles manifestement insurmontables. C'est lié à la perte d'une certaine flexibilité mentale, explique la médecin. Est-ce pour cela qu'il est à fleur de peau ? On dirait que tout l'agresse, le moindre bruit, la moindre lumière, la moindre présence. Parfois, j'ai l'impression que même moi, il ne me supporte plus. Comment est-il possible de changer à ce point, docteur ? Je demande d'une voix chevrotante, gagnée par l'émotion. Les modifications du comportement et de l'expression émotionnelle sont, hélas, fréquentes après un grave traumatisme crânien. C'est ce qui revient le plus dans les témoignages des familles. Je suis consciente que ça ne représente pas une aide ni une solution au quotidien, mais sachez que vous n'êtes pas seule. Les personnes autour de vous, ce soir, vivent les mêmes bouleversements, les mêmes nécessités d'ajustement, voire de réinvention d'un quotidien. Il est essentiel de ne pas s'isoler, de s'appuyer sur des alliés pour vous aider à avancer. C'est ce que vous pouvez trouver ici, de la compréhension. Soyez certain et certaine que ce que vous pourriez raconter a été vécu par au moins un autre participant. Est-ce que ça finit par s'arranger ? Ma question fuse, coupant presque la parole de la médecin. Je regarde les membres du groupe tour à tour, pleine d'espoir. Je ne récolte que des sourires gênés, des regards fuyants. Je comprends que de ce point de vue, rien chez eux n'est jamais rentré dans l'ordre. Pour ceux qui ont envie de poursuivre la discussion, ou n'ont pas encore le courage de rentrer, ne puis-je m'empêcher de penser, quelques boissons et biscuits ont été installés sur une table sommairement recouverte d'une nappe en papier blanc. Je me sers un jus d'orange tiède dans un gobelet en plastique, j'attrape une part de 4 quarts insipide et je m'avance vers Janine. Janine, je ne sais pas si tu me reconnais, je suis Alice, nous patinions ensemble. C'était dans une autre vie, je te l'accorde. Alice ! S'exclame-t-elle en m'adressant un grand sourire. Je me disais bien que ton visage m'était familier. Ça fait combien de temps ? 15 ans ? Plus de 20 ans même. J'ai raccroché en 2001. Tu avais décidé d'arrêter après la sélection pour les championnats de France, c'est ça? Tu avais aussi rencontré quelqu'un, il me semble, non? Excellente mémoire. J'avais échoué lors des sélections et j'ai rencontré Emeric en sortant de la patinoire. C'est mon mari. Son sourire s'efface, remplacé par une expression de sollicitude. C'est arrivé il y a longtemps? Non, c'est assez récent, en février. Un type a grillé un feu rouge et l'a percuté de plein fouet. Il est resté inconscient plusieurs jours. Et pour toi? Ça fera 1 an demain. Aurélie, ma femme, a fait une chute à ski. Elle ne portait pas de casque. 1 an? Oh, pardon, m'excusai-je aussitôt. Je ne voulais pas. T'inquiète pas. Moi non plus, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir, alors que ça fait longtemps que j'ai perdu l'espoir d'une amélioration. Aurélie est en vie. Je sais que je ne devrais pas me plaindre. Je ressens la même chose avec Emeric. En plus de ne plus être le même, il a tout oublié. Notre vie, notre histoire, tout. J'ai l'impression d'aimer un fantôme. Or, il est vivant. Il n'a pas beaucoup de séquelles physiques, d'un certain point de vue. Je devrais me réjouir. Mais tu n'y arrives pas. Non. Tout le reste, c'est tellement dur. J'éclate en sanglots. Janine me serre dans ses bras, sans essayer de me consoler, de me redonner confiance en l'avenir. Parce que, au fond, il n'y a rien qu'elle puisse vraiment me dire. Elle comprend, et c'est déjà énorme. La vie nous fait parfois ce cadeau de remettre sur notre chemin des personnes depuis longtemps perdues de vue, juste au bon moment. Après avoir discuté 10 minutes, nous échangeons nos numéros de téléphone. Elle me fait promettre de l'appeler. Je lui promets de le faire, et nous repartons chacune vers celui et celle qui partagent notre vie. Et nous nous efforçons de ne pas oublier qu'un jour, nous les avons aimés. De retour à la maison, je suis accueillie par ces mêmes notes de musique qu'Emeric joue inlassablement. Je sais désormais que c'est lié à son traumatisme, aux lésions occasionnées, qu'il faut donc que je fasse preuve de compréhension. Mais c'est plus fort que moi. Je sens monter de l'agacement. Après un soupir, j'ouvre la porte et je m'annonce d'une manière aussi enjouée que possible. « Bonsoir, je suis rentrée !» Je m'approche d'Emeric et dépose un baiser sur sa joue. À ce niveau-là aussi, les choses sont différentes. Emeric et moi n'avons plus. Il ne me touche pas, et en ce qui me concerne, je ne tiens pas du tout à revivre la réaction de rejet qu'il a eue lorsque je l'ai embrassé la dernière fois. Je suis allée à la réunion du groupe de parole sur le traumatisme crânien. La médecin qui animait la séance nous a donné beaucoup d'explications. « Oh ! Tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré là-bas. Janine, une fille avec laquelle je m'entraînais à la patinoire. Ça faisait 1 siècle que je l'avais pas vue. Vous étiez voisins et ta sœur en était fan. C'est d'ailleurs grâce à ça que nous nous sommes rencontrés, tu t'en souviens ?» Emportée par mon élan et par le plaisir d'avoir recroisé une vieille amie, j'en oublie l'incongruité de ma question. « Non, je ne m'en souviens pas. Tu sais très bien que je ne m'en souviens pas. On dirait parfois que tu le fais exprès, » rétorque-t-il sèchement. « Excuse-moi, je ne m'attendais pas du tout à la voir, alors... Pardon, je suis désolée. Janine et moi, nous appartenions au même club. Nous avons patiné ensemble pendant des années. Bien que nous ayons été concurrentes lors des compétitions, nous nous entendions très...
Est-ce que je t'ai dit que j'avais envie de savoir qui était cette Janine? Je ne crois pas. Si tu le permets, je voudrais continuer à jouer et à apprendre ce morceau.
Sauf que tu n'y arrives pas, murmurai-je avant de me reprendre aussitôt et d'enchaîner. La médecin nous a parlé de ça, des difficultés de concentration. Peut-être que tu devrais te laisser du temps, ne pas t'acharner.
Ne pas m'acharner? Ne pas m'acharner? S'insurge-t-il en plaquant violemment ses doigts sur le clavier. Je ne m'acharne pas, je... Tu crois savoir ce que je vis, mais tu n'en as aucune idée. Je me fiche de cette Janine et du pourquoi tu ne la vois plus depuis des années. Je n'ai pas besoin de conseils ou de repos, encore moins des explications des médecins. Je veux juste apprendre à jouer ce morceau. Est-ce si difficile à comprendre ?
Hurle-t-il. Son regard noir me terrifie. Je n'y voyais que de l'amour. Il a laissé place à de la haine. Je vais aller m'occuper du dîner. Je t'appelle quand c'est prêt. Je ne sais pas comment je suis parvenue à prononcer ces mots sans me mettre à pleurer. Alors que j'entre dans la cuisine, Emeric reprend sa sempiternelle litanie musicale,
Mi do sol la mi ré, mi do sol la mi ré. Combien de temps tout cela va-t-il durer ?